Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. À une semaine des élections parlementaires européennes, nous continuons à recevoir les prétendants à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Nous recevons aujourd'hui la tête de liste de la gauche européenne, l'Espagnol Nico Cué, résident en Belgique. Alors, vous êtes déjà un Européen, ancien syndicaliste et ancien métallo.
Alors, parmi les candidats déclarés, vous êtes l'unique représentant de la classe ouvrière et votre parcours, il s'inscrit dans une grande page de l'histoire européenne et de l'histoire des luttes du continent. Vous êtes né en Espagne dans une famille de mineurs. Mais après les grandes grèves de l'année 62, votre famille doit fuir le régime franquiste. C'est alors que vous vous installez en Belgique. À l'âge adulte, eh bien, vous reprenez le flambeau, vous devenez métallo et très vite, vous devenez un militant syndical. Vous êtes maintenant en retraite. Auparavant, pendant 15 ans, vous avez occupé les plus hautes fonctions. Vous avez dirigé la Fédération des métallos de Wallonie-Bruxelles. Et vous entamez donc aujourd'hui une nouvelle carrière politique en vous présentant sur cette liste de la gauche radicale.
Plus exactement, la gauche unitaire européenne, GUE, on dit. Hein. Monsieur Cué, jusqu'ici 52 députés sur 751. Et selon le dernier baromètre du Parlement, vous seriez en net recul. Alors, vous croyez pouvoir rattraper ce retard et jouer un rôle dans la prochaine mandature?
Petite précision, c'est le parti de la gauche européenne qui m'a proposé comme candidat à la présidence de la Commission européenne et non pas le groupe de la gauche européenne. Oui, c'est une volonté, c'est d'essayer d'avoir, de récupérer le retard qui nous est marqué par les différents sondages, mais en même temps, c'est une volonté de ramener à ce niveau de pouvoir un certain nombre de discours qui ne sont plus entendus par ce pouvoir.
Lesquels ?
Tout simplement, la vie quotidienne des gens. On est dans des discussions au niveau européen qui s'éloignent, parfois très loin de la vie quotidienne des gens. Je prends un exemple. Tout ce qui est traité international de commerce pose un problème aux citoyens, puisqu'on est en train de rompre les standards de vie habituels des Européens, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'industrie. Il y a pas mal de sujets qui touchent au quotidien les citoyens européens.
Alors, dans cette famille de la gauche radicale européenne, il y a beaucoup de chapelles et on s'y perd un peu. Comme vous l'avez expliqué, il y a ce groupe parlementaire gauche unitaire européenne, il y a le parti. Au sein du Parlement, le groupe fédère les Allemands de Die Linke, les Grecs de Syriza, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon sont bien dans le groupe, mais on n'est pas sûr qu'ils y restent. Comment est-ce que vous allez recomposer toute cette famille? Comment est-ce que vous allez vous rassembler après les élections? Qui sera dedans et dehors?
Oui. Enfin, pour parler du groupe parlementaire, il a bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une certaine solidarité dans la présence dans les commissions, les informations entre les différents groupes. C'est pour ça que tout le monde se met à l'intérieur de ce groupe parlementaire. Il faudra discuter après le 26, en fonction des rapports de force qu'il y aura et que les citoyens auront décidé, comment ce groupe parlementaire va fonctionner. Mais je pense que depuis quelques semaines...
Mélenchon se s'entend plus très bien avec Syriza, qu'il juge beaucoup trop social-démocrate, etc. Enfin, on s'envoie finalement des invectives de part et d'autre sur qui est plus à gauche ou moins à gauche.
Moi, j'ai pas entendu Syriza envoyer des invectives vis-à-vis de Mélenchon, mais bon, ce sera des discussions.
Vous avez entendu celle de Jean-Luc Mélenchon?
J'ai entendu celle de Jean-Luc Mélenchon, mais bon, c'est son droit. On verra le résultat des élections. On verra s'il peut former ou pas son groupe parlementaire à part. Il faut quand même une présence dans 7 pays, au moins 24 députés. Ce sera lui de décider s'il joue avec tout le monde ou s'il continue à jouer tout seul.
Alors, Emmanuel Macron a théorisé pour ces élections européennes un duel frontal progressiste contre populiste ou nationaliste, maintenant ils les appellent comme ça. Est-ce que vous réussissez, vous, la gauche unitaire, à exister dans ce match qui existe bien, on le voit bien dans certains pays, en particulier la France, mais aussi peut-être au niveau européen?
Oui, mais il y a un certain nombre d'approches qui m'étonnent un petit peu. Hein. On a aussi le secrétaire général du Parti démocratique en Italie qui dit « Moi, je veux rassembler de Macron à Tsipras. » Moi, je crois qu'il faut être clair. Il y a, à un moment donné, des choix à faire au niveau européen. On ne peut pas continuer comme ça. On voit bien que l'Europe est en train de se décomposer petit à petit. Brexit, augmentation des groupes d'extrême droite, et même prise de pouvoir quand on voit ce qui se passe en Italie. Il faut, à un moment donné, clarifier où on est pour une Europe avec les gens, avec les citoyens, où on est avec une Europe des marchés. Et je vois la différence entre un monsieur Macron qui est en train quand même de démanteler un petit peu l'État social et monsieur Tsipras qui lui est en train de le reconstruire justement parce qu'on l'a démantelé. Et donc à un moment donné, il faudra choisir. On ne peut pas faire des fronts aussi larges sans avoir un programme qui définisse clairement ce qu'on veut faire avec l'Europe.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu où vous vous situez dans cette famille protéiforme de la gauche européenne ? En France, il y a beaucoup de listes qui se réclament de la gauche. Parmi les plus radicaux, on a donc les Insoumis avec Manon Aubry, on a aussi les communistes de Yann Brossat. De qui vous vous sentez le plus proche ?
De Yann Brossat, c'est celui qui fait partie du Parti de la gauche européenne et je trouve qu'il mène une campagne assez claire, assez précise, avec beaucoup de talent. Donc c'est avec lui que je suis le plus proche. Mais je pense qu'on défend tous la biodiversité. Il y a de la biodiversité à gauche, peut-être un peu plus qu'il n'en faut, mais je pense qu'après les élections, il faudra quand même qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on arrête un peu de faire le ridicule et de se rassembler. Face à nous, il y aura presque une centaine de députés d'extrême droite. Et donc, c'est surtout vis-à-vis d'eux qu'il faut essayer de se rassembler et faire un front le plus large progressiste. Mais je reste très précis sur le fait où on choisit le marché, où on choisit les gens. Et là, ce sera une ligne de rupture parce qu'on ne peut pas continuer avec cette Europe comme ça. Le marché ne peut pas tout gérer. Il y a une forme de religion de la concurrence au niveau européen. Mais je rappelle que le traité CECA sur le charbon et l'acier, qui est le fondement même de l'Europe, c'est la régulation du charbon et de l'acier.
Donc ça veut dire qu'on fait du protectionnisme concrètement ?
Non, on n'a pas fait de protectionnisme, on a régulé le marché. Réguler le marché, c'est pas faire du protectionnisme. Réguler le marché, c'est éviter les excès du marché. C'est-à-dire, sur les questions industrielles, on a quand même en Europe trois beaux projets industriels qu'on a menés. C'est-à-dire, dont le dernier, c'est François Mitterrand avec Galileo, où on a pu créer une vision industrielle dans l'intérêt de l'ensemble de la population européenne, mais aussi que le travail se fasse à l'intérieur des frontières européennes. Il y a Airbus. On a l'air d'avoir oublié que Airbus, c'est une initiative publique européenne. Et on pourrait multiplier les exemples d'initiatives d'industrialisation qui viennent du public et non pas du privé.
Alors, on a aujourd'hui un ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, et puis un Allemand, Peter Altmaier, qui appelle à une industrie européenne. Finalement, vous êtes assez proche de leur projet,
pas.
En parlant d'Airbus.
Non, j'ai lu leur communiqué commun et leur perspective. Ils restent sur cette notion de concurrence envers tout et contre nous. Et contre tout. On ne peut pas continuer à faire de la concurrence parce que la concurrence nous amène en définitive à la guerre des uns contre les autres.
Mais au niveau mondial, il y a une vraie concurrence entre les Chinois, les Américains.
Commençons déjà par le marché intérieur européen. C'est 500 millions de consommateurs. 500 millions de consommateurs. Je crois qu'il faut à un moment donné bien mesurer les différentes étapes sur lesquelles on doit aller. Reconstituons l'industrie européenne. On a le défi climatique. On a des matériaux que le privé ne veut pas sortir parce que c'est pas rentable. Pourquoi est-ce que le public ne prendrait pas un certain nombre d'initiatives ? Quand on a fait Airbus, tout le monde pensait que ce serait une catastrophe, quoi. Et pourtant, on a aujourd'hui une entreprise qui est la plus importante au monde.
Alors, on va prendre un cas d'exemple, si vous le voulez bien, justement en France. Le groupe britannique de sidérurgie British Steel, repreneur fin mai de l'acierie à Ascoval, risque une possible faillite. British Steel mène d'ailleurs des négociations avec le gouvernement britannique pour obtenir un soutien financier. Beaucoup d'inquiétudes évidemment en France, au siège de l'entreprise. On regarde tout de suite ensemble ce reportage.
Ils se pensaient sauvés, les voilà peut-être à nouveau menacés. Les difficultés annoncées de British Steel, le repreneur d'Ascoval, plongent les salariés du groupe en plein doute. Dans le Nord, les employés accusent le coup.
C'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas du tout envisagé. Et c'est même pire qu'un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar, on se réveille, on secoue et c'est reparti. Là, c'est en train de se dire qu'on est en train de se faire sacrifier, quoi.
Il y a tout juste 12 jours, l'offre de reprise de British Steel était validée. Le groupe britannique mettait 47,5 millions d'euros sur la table, tout comme les pouvoirs publics français pour reprendre Ascoval. Émus et soulagés, les 270 salariés se croyaient alors sauvés. Bruno Le Maire se félicitait de l'heureux dénouement.
C'est une jolie fin. Et ça arrive suffisamment rarement pour que ce soit souligné.
Les députés de l'opposition, de leur côté, estiment que le gouvernement a mal évalué la solidité du repreneur britannique. Dans un communiqué, British Steel l'affirme, il respectera tous ses engagements vis-à-vis d'Ascoval et promet d'apporter les fonds nécessaires en temps et en heure. De son côté, Bercy continue de soutenir le projet de reprise.
Alors, est-ce qu'il faut sauver, Monsieur Coué, le dernier bastion français de la métallurgie ? Vous êtes sensible à cette thématique, bien sûr, avec l'aide des Français, des Britanniques, de l'UE, voilà. C'est la question qui se pose.
Vous voyez, je viens de la sidérurgie. J'ai travaillé beaucoup pour les dossiers quand Mittal a repris Arcelor, qui a été une bataille assez gigantesque sur la sidérurgie au niveau européen. Et malheureusement, on n'a pas toujours les appuis publics nécessaires pour se défendre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ferme nos entreprises, les entreprises qui sont extrêmement intéressantes, parfois pour des questions financières, parfois pour des questions de pollution, mais on va faire exactement la même chose ailleurs. Je vous prends simplement un exemple. Quand on a fermé Florange et Liège, les hauts fourneaux, M. Mittal absolument a voulu fermer ces hauts fourneaux. Nous avions, nous, tous les syndicats, tous, proposé à Bruxelles de reprendre l'ensemble de ces sites parce que nous avions des produits assez intéressants à pouvoir mettre sur le marché. Exemple, une tôle d'acier qui n'est plus nécessaire de nettoyer. Imaginez-vous la quantité d'eau, si on ne doit plus nettoyer nos voitures, si on ne doit plus nettoyer nos électroménagers, etc., etc., qu'on peut économiser, mais en même temps, tout ce qu'on ne rejette pas aux égouts comme détergent et ainsi de suite. Eh bien, non, on laisse faire le privé, on laisse faire soi-disant le marché, et puis alors on se tire une balle dans le pied par rapport à notre futur et par rapport à nos emplois. Donc je pense qu'il faut absolument que le public, la puissance publique, revienne sur le marché pour le réguler, parce que sinon nous allons avoir des gros problèmes.
Nico Coué, il y a une question qui est souvent évoquée pendant cette campagne, c'est la question des inégalités, et donc on parle forcément salaire. Il y a un SMIC au niveau national, au niveau de 22 pays sur 28. Vous êtes favorable à un SMIC européen. Comment vous voyez ce SMIC européen ?
Non, moi je pense que là où il y a un SMIC intéressant, c'est plutôt dans les économies les plus fortes, quoi, hein. C'est ce qui permet en tout cas aux gens de vivre correctement et de pouvoir avoir un niveau entre guillemets de consommation. Je ne suis pas un fan de la consommation, mais en tout cas, la possibilité de vivre dignement, ce qui nous permettrait d'avoir un salaire minimum, c'est aussi de casser le dumping social sur les salaires. Parce que ça fait très mal à l'ensemble des travailleurs européens, qu'ils soient à l'Est ou qu'ils soient à l'Ouest. Et donc, si on arrive au moins à avoir un salaire minimum correspondant au moins à quelques points au-dessus du seuil de pauvreté, ça permettrait en tout cas de relancer l'économie européenne et non pas d'avoir, parce qu'on parle d'immigration, mais on a 20 millions de personnes de l'Est qui sont venues vers l'Ouest sur ces 15 dernières années. La Hongrie est en train de se vider de sa population, la Roumanie est en train de se vider de sa population parce que leurs conditions de vie sont totalement insupportables. Et c'est pas ça l'idée et l'objectif de l'Europe. Je crois qu'il faut bien se mettre en tête que l'envie d'Europe que les gens avaient, c'était une sécurité sociale correcte et pouvoir répondre aux aléas de la vie au quotidien. Aujourd'hui, on n'a pas réussi ce défi-là.
Alors vous plaidez, hein, si vous n'opposez pas écologie et économie, non, vous plaidez pour une initiative forte de transition écologique. Mais pourquoi est-ce qu'on va voter pour vous, pour une initiative forte de transition écologique, plutôt que pour les Verts, qui soutiennent cette seule idée depuis des décennies ?
Mais si vous voyez mes déclarations, je pense que j'ai dit clairement qu'avec les Verts, on devrait travailler beaucoup plus. Et surtout, pour que nous apprenions d'eux, mais qu'eux apprennent aussi de nous.
Nico Coué, vous avez une idée bien précise pour faire de la transition écologique. Vous voulez donner un nouveau rôle à la Banque Centrale Européenne, qui oui, pour l'instant s'occupe uniquement du niveau de l'inflation. Qu'est-ce que vous proposez exactement?
Mais très clairement, c'est là où il y a la rupture avec l'ancienne Europe. Je vais utiliser ce terme-là. C'est que la Banque Centrale Européenne a une telle indépendance et des objectifs très clairs et très précis qu'elle ne s'occupe pas de la vie au quotidien. Par contre, elle est capable de se passer les traités par-dessus la jambe quand il s'agit de sauver les banques. L'augmentation de la période où les banques peuvent déposer leurs avoirs à la Banque Centrale Européenne, et aussi, ils ont sorti monétairement, c'est-à-dire plus de 3 000 milliards ces 10 dernières années pour soutenir les banques. Il n'y a pas un euro qui est venu dans l'intérêt des citoyens. C'est quand même assez incroyable. Il n'y a aucune banque, autre banque.
Vous ne pensez pas que ça a permis d'éviter l'effondrement des banques qui aurait ruiné beaucoup de petits épargnants ?
La Fed est indépendante aussi, mais veille à l'intérêt des États-Unis et des citoyens américains.
Elle s'occupe effectivement du plein emploi.
Ici, on leur a donné de l'argent aux banques, soi-disant pour relancer le crédit, pour pouvoir relancer l'économie et pour pouvoir relancer l'ensemble de la machine économique. On a eu le contraire. Les banques ont durci les prêts aux citoyens et donc on a encore plus de difficultés que par le passé.
Parlons à un moment d'un homme que vous aimez pas trop, j'imagine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il a été d'ailleurs suspendu du Parti populaire européen pour avoir justement tenu des propos plutôt europhobes. Et il était pourtant reçu cette semaine à Washington, où il a reçu un soutien appuyé de Donald Trump. Vous pensez que c'est de l'ingérence américaine dans la campagne, vous diriez ça ?
Je ne sais pas, je ne le mesure pas. Enfin, moi, personnellement, je ne le mesure pas. Mais par contre, ce que je mesure, c'est un peu l'hypocrisie qu'il y a au Parti populaire européen, quoi. Hein, c'est... Parce que personne ne sait s'il a vraiment été suspendu, puisqu'il continue à aller au sommet, il continue à aller discuter un certain nombre d'endroits. Donc, il a été suspendu, il n'a pas été suspendu. Je crois que, pour l'ensemble de la montée de l'extrême droite, puisque... Il y a eu aussi toute une série de rencontres entre Orban, Salvini, Marine Le Pen, pour toute une série de personnes comme ça qui sont en train de mettre vraiment en danger le projet européen et le fait de vivre harmonieusement entre citoyens au niveau européen. Il me semble qu'il faut qu'on ait un front relativement large aussi en opposition à cette coalition qui risque de se mettre en place. C'est un allié de Trump, clairement. Trump n'a pas intérêt d'avoir une Europe qui soit unie et qui soit puissante. Il voudrait bien une Europe très faible.
Vous voulez dire par là que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable de l'Europe ?
Ça, je l'affirme haut et fort.
Et quid de la Russie alors, puisque Jean-Luc Mélenchon dénonce régulièrement l'hystérie anti-russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous pensez quelle attitude doivent avoir les Européens vis-à-vis de Vladimir Poutine ? Doivent-ils lever les sanctions ?
Je ne sais pas s'ils doivent lever les sanctions ou pas, mais il faut à un moment donné, et je pense aussi que c'est la philosophie du Parti de gauche européenne dans sa plateforme, c'est de régler les conflits autour d'une table, quoi. Et je crois qu'il faut évidemment avoir des rapports de force intéressants, mais l'Europe, si on met l'ensemble des économies, toutes les unes avec les autres, a une puissance de feu économique extrêmement importante. Donc il faut essayer de régler les conflits autour d'une table. Avec M. Poutine, avec... qui que ce soit qui remet en cause les libertés individuelles ou une situation chaotique dans leur pays. On ne peut plus régler les problèmes comme en Libye, c'est-à-dire où on a démonté complètement l'État. C'est des bandes qui s'entretuent les uns les autres. C'est l'esclavage qui revient à travers la Libye. Ça, c'est régler les problèmes avec des conflits armés n'entraîne que encore des situations bien pires. Donc pour nous, c'est de se mettre autour de la table. Les États-Unis ne sont pas un ennemi. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient ou qu'on ait avec eux des discussions pour essayer d'améliorer les standards de vie des Américains, mais aussi protéger le standard de vie des Européens. Et avec la Russie, ben, c'est un voisin. C'est un voisin. Alors, ou on se met en conflit avec son voisin, ou on essaye d'en faire un partenaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mme Merkel qui l'a évoqué lors d'une conférence de presse.
Merci d'avoir été notre invité, Nico Kwe, donc tête de liste européenne pour la gauche unitaire.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou bien sur France 24.